Chapitre 12. Le loup. J'arrête ma voiture à l'angle d'un trottoir. Un fleuriste. Je vais acheter des fleurs pour maman. J'entre dans le magasin. Là, un homme attend qu'on le serve. Il a une toque de loup sur la tête. Un énorme manteau de loup lui descend sur des bottes fourrées. Je pense. Il doit mourir de chaleur ou il part pour le pôle. Début novembre, le climat de Paris ne nécessite pas un pareil équipement. Il fait frisquet, sans plus. Il est très hésitant, ce monsieur, devant le jardin exposé. Très excité et très admiratif aussi. Il va d'une plante à l'autre, d'un bouquet composé à un autre. Il exécute une série de pas de danse, pousse des exclamations. La vendeuse attend patiemment, mais elle est subjuguée par les poils drus couleur d'automne qui couvrent son client. Gris, mélangé de roux. Elle doit se dire qu'elle s'en ferait bien un tapis. Pour un manteau, c'est un peu abondant, d'autant plus qu'elle est fort menue. Mais un tapis serait somptueux devant son lit, beaucoup mieux que la peau de bique qui certainement se fait vieille et qui pèle. C'est du moins ce que j'imagine. Et je pense à Madame de Léry et au projet d'avenir qu'elle fait pour sa martre d'Éthiopie. Le monsieur tourne. Quelle merveille ! Oh, je suis perplexe ! Il tourne et tourne encore et soudain, il est nez à nez avec moi. Nous ouvrons tous les deux des yeux immenses. Il est encore plus émerveillé par moi que par les bouquets. Et il dit « C'est vous !» comme s'il me retrouvait au paradis après des siècles de vaine attente. Il me prend les mains, les remue en tous sens. « Quelle extraordinaire surprise! Vous venez là souvent ?»« Jamais. C'est la première fois que j'y mets les pieds. »« Oh, le destin » dit-il. « Comme je suis heureux !» Et je pense « Mon Dieu, c'est le loup! C'est le loup !» Tout couvert de loups, habillé de loups. C'est insensé. Je l'interroge. Vous vivez à Paris ou vous y êtes de passage? Je suis de passage, je repars demain. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu un monsieur très cossu. Oh oui, ça va bien. J'ai une troupe de théâtre à Vilnius. Ah? Qu'est-ce que c'est que ce bled, me dis-je. Un nom pareil ne justifie pas un luxe aussi évident. Et comme je déteste rester sur une incertitude, je demande. Qu'est-ce que c'est que Vilnius? La capitale, voyons! La Lituanie, vous savez! Ah oui! C'est intéressant! Ça marche? Très bien! Mais j'ai besoin d'établir des contacts un peu partout dans le monde, alors Paris! Et il me prend par les épaules, sous l'œil surpris de la fleuriste qui attend derrière son comptoir. Il manifeste un grand enthousiasme à mon égard au cours de cet attouchement et je pense. Ça y est, il va me redemander en mariage! Mais il se contente de me secouer, de rire comme un sauvage en s'exclamant « Je suis content! Vous! Vous! Oh, je suis vraiment content !» Eh oui, c'est la jeunesse qui revient. « Oh, mais vous n'avez pas changé !» Alors, je n'étais pas fraîche à 20 ans, j'en ai bientôt 50. « Non, non, vous n'avez pas changé! La preuve, je vous ai reconnue tout de suite !»« Moi aussi, et vous êtes mieux maintenant !»« Vous aviez l'air d'un loup famélique, maintenant !» Je m'arrête interdite. Qu'est-ce que je raconte? Je suis folle. Mais sans hésitation apparente, courageusement, je vais au bout de ma phrase. Maintenant, vous êtes un loup bien nourri. Je suis prise d'angoisse intérieure. Je devrais faire attention à ce que je dis. C'est sûrement l'œil de Moscou qui nous l'envoie. Lui me trouve désopilante. Il rit en montrant une mâchoire démesurée, une mâchoire de carnassier. Monsieur, dit timidement la vendeuse, qui n'en peut plus d'attendre. « Avez-vous une idée ?» Il fait volte-face. « Tout, dit-il, tout. C'est trop beau, tout ça. » Et je me demande s'il fait allusion aux fleurs ou à notre rencontre. Pourtant, il se calme un peu en tâtant la poche de son complet. « Attendez, soyons raisonnables. Ça, c'est pour moi, il désigne une azalée rose pâle, et ça, ça, et ça, c'est pour mademoiselle. »« Madame, dis-je en souriant. « Ah, vous êtes mariée ?»« Oui, j'ai fini par me décider. » Est-ce qu'il croit que je l'ai attendu? Mais pas tout ça pour moi, je ne l'ai pas mérité. Si, vous m'êtes apparu juste avant que je ne parte. Pendant que je pense, il est toujours aussi exalté et timbré, la vendeuse se met à corseter rapidement les bouquets avec son papier de fleuriste transparent et rigide. Pourvu qu'il ne change pas d'idée, il est étrange ce client-là, constate-t-elle de son côté en s'activant. Je continue à protester. Mais non, mais non! Avant de s'emparer de son azalée, il ouvre encore démesurément la bouche, comme s'il allait me croquer, et les bras. « Ah, Paris, dit-il, quel souvenir, quelle joie! Que faites-vous maintenant ?»«
Une très belle carrière, et je vous promets que je ne ris plus du tout en scène. »
« Oh, j'en suis heureux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en suis heureux. Et je vous ai revu. Je pars heureux. »
Les bouquets sont enveloppés. Je croule sous le poids des fleurs.
« Vous m'avez comblé, dis-je. Dieu merci, j'ai ma voiture. »«
Non, non, on vous livrera. » »«
C'est inutile, j'habite à côté. » »«
Il ne manquerait plus que ça. Je ne vais pas lui donner mon adresse. » »«
C'est sûrement le KGB qui paie. Je vais avoir le KGB sur les talons. Le KGB va me prendre dans son collimateur. » Quel forcené! C'est un homme dangereux! Alors je vous aide!
Et on charge la petite voiture. 1, 2, 3, 4 bouquets. Gaiement, je pense. Des fleurs pour l'enterrement de nos relations.
Quelle chance qu'ils repartent pour la Lituanie!
Nous sommes tous les deux à l'angle du trottoir.
Je suis vraiment confuse. Vous savez, vous m'avez gâtée sans raison et de façon excessive.
Non, non! Vous êtes Paris! Vous êtes ma jeunesse! Vous avez été un amour.
Je ne peux même pas le remercier en le gratifiant de son nom ou de son prénom. Je les ai complètement oubliés. Et pas question de l'embrasser. Cela le ferait exploser, ce baril de poudre.
Je lui tends donc la main avec une retenue évidente qu'il ne peut pas ne pas sentir.
Ah, la pudeur, la décence exquise des Françaises, dit-il extasié. Et il ajoute avec grandiloquence. Adieu.
Au volant, je démarre et me mets à rire.
Ça y est, c'est fait, j'en suis débarrassée.
Maman va être ravie, sa maison sera superbe. Et ce qui s'est passé 30 ans plus tôt me revient en mémoire. Ce type, un après-midi, a fait son apparition dans la troupe.
C'est un Lituanien, dit Dunin à ses interprètes. Soyez gentil avec lui.
Un Lituanien, en pleine occupation allemande, alors que la Lituanie vient d'être annexée par les Russes.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Personne ne dit mot. Il s'intègre. Il parle déjà un bon français, encore un peu mélangé cependant de barbarisme. Mais curieusement, cela ne lui donne aucun charme. D'habitude, le barbarisme sonne agréablement. Tout de suite, j'ai le sentiment d'être face à une bête sauvage. C'est l'image du loup qui s'impose à moi. Il va faire partie désormais de la cohorte des élèves dont Dulin aime enrichir sa troupe. Il y a là-dedans des étudiants et turiféraires de Jean-Paul Sartre, drainés par celui-ci, qui donnent des cours d'histoire du théâtre à l'école du patron. Et en marge de ce groupe sartrien, des éléments disparates d'une jeunesse fauchée complètent les effectifs des figurants. Le Volgum Pecus mène une vie un peu à part, et comme je suis déjà passée au niveau du professionnalisme, que je joue des rôles, que je suis au conservatoire, je vois la situation d'un peu haut.
Bonjour, bonjour!
Non que je sois condescendante, mais je suis ailleurs, l'esprit rempli de préoccupations sérieuses, de tracs sérieux. Je n'ai pas été engagée pour jacasser ou pour flirter ou pour aller au bistrot. Je n'en ai d'ailleurs pas le temps. En ce moment, précisément, je répète une pièce difficile. C'est une œuvre sortie de la plume d'une femme chérie du patron. Cette dame semble surgir d'une cour d'amour du Moyen-Âge. Elle a de longues nattes d'un blond roux qui lui descendent jusqu'au bas des fesses. Parfois, elle les laisse pendre. Parfois, elle s'en fait un énorme turban très élaboré, ou bien elle les édifie en étranges chignons de petites tresses juxtaposées. Elle a une voix perchée et enfantine, mais derrière son babillage léger, on la sent ambitieuse et obstinée. Elle s'habille de façon excentrique, adopte une mode hors du temps, et ne se sépare jamais de son ombre noire, sa camériste espagnole. Cette originale personne a écrit sa pièce en la situant précisément en Espagne. Une certaine Marianne de la Trémoille, princesse des Ursins, complote à la cour de Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. Dulin endosse le rôle du cardinal Alberoni, qui essaie vainement de faire donner à son souverain la régence de Louis XV. La pièce est confuse. La cour de Philippe V est un nœud de vipère qui n'intéresse personne, pas même les acteurs. Tous répètent mollement résignés. Ils n'aiment d'ailleurs pas l'ami du patron. Celui-ci s'applique à mettre un maximum de chance dans la balance, afin que sa dame remporte une victoire. Je joue la jeune reine, épouse de Philippe V. Cette malheureuse est dévorée par des écrouelles, maladie qu'on ne connaît plus, et elle meurt victime de l'appétit sexuel de cet obsédé de petit-fils de Louis XIV qui, comme le petit Otto, ne pense qu'à ça. Les conséquences inéluctables de l'amour physique restent pour moi, qui suis à l'époque toujours vierge, un mystère effrayant. Alors qu'après l'amour, il devrait vous pousser un enfant, je n'en reviens pas de cette idée que ce soit des écrouelles qui prolifèrent et qu'on puisse en mourir. C'est une perspective glaçante. Mourir en couche, c'est terrifiant, mais mourir d'écrouelles, c'est laid, sale, inattendu et incompréhensible. J'en veux beaucoup à l'auteur de m'avoir jeté ce sort-là avant même que j'aie eu le temps de savoir ce qu'est un homme. Le rôle est d'un pathétisme complètement démodé, aussi démodé que les écrouelles, et je me demande dans quelles perspectives intérieures je trouverai la sincérité qui fera couler sur mes joues des larmes. Il est très connu que les larmes des jeunes premières dramatiques sont grosses comme des petits pois, mais j'ai beau inventorier mes plates-bandes intimes, aucune rame de petits pois ne s'y trouve prête à délivrer le produit de sa maturation. L'angoisse grandit de jour en jour. Jacques Castelot, qui joue Philippe V, arrive au théâtre armé d'un humour glacé. Ce n'est évidemment pas lui qui va m'aider à croire au malheur de cette jeune femme victime de ses ardeurs. Tout ça se présente assez mal. Les commentaires sont très durs en coulisses. On entend « Le patron est fou !» Lui qui aime répéter « Si c'est un four, et ce sera un four, dans les 3 jours qui suivront la générale, on y repiquera aux répétitions. » Ça le consolera. Ouais, mais il sera quand même de mauvais poil. Il va avoir des problèmes avec sa bonne femme. La perspicacité décontractée des acteurs veille avec insouciance. La troupe est de bonne humeur, à part moi, qui suis toujours à la recherche de ma sincérité dramatique. Et le jour fatal arrive, doublé de l'examen impitoyable devant la presse. Malgré la bonne volonté générale, c'est un échec. Les jours suivants, la salle est vide ou presque. Le tam-tam parisien qui se fait de bouche à oreille a parfaitement fonctionné. La princesse des Ursins a ennuyé Paris. Dulin, très occupé à consoler sa reine, n'a pas l'air affecté personnellement de l'échec subi par la princesse. Il doit se dire qu'il reprendra l'avare, la volupté de l'honneur, Volpone ou la vie est un songe. Il n'a que l'embarras du choix. Paris l'aime. Il en a cependant abusé en lui proposant cette œuvre inutile, et Paris ne supporte pas qu'on déçoive son amour. Paris boude. Tout le monde s'ennuie, en scène et dans la salle. Tout le monde, sauf le lituanien. Il fait partie du peuple malheureux qui vient crier sous le balcon des souverains pour obtenir quelques adoucissements à un sort funeste. Non seulement il crie, le lituanien, mais il le fait dans un langage incompréhensible qui est probablement sa langue maternelle. Et, en criant, il se déchire. Les misérables figurants sont en lambeaux, mais lui, plus que tout autre. Car chaque soir, il déguenille un peu plus la chemise qui couvre sa poitrine et, de ses griffes de loup, il se laboure la chair. Il sort de scène couvert de sang. Dulin de la coulisse le regarde, intéressé. Et légèrement sadique, il dit « Il est bien, ce petit. Il est sincère. » Philippe V et moi, son épouse martyre, du haut de notre balcon, nous assistons à cette autodestruction journalière avec une surprise de plus en plus amusée. Et je commence, oubliant le drame personnel de mon personnage, à mal maîtriser un fou rire qui, au fil des représentations, s'aggrave. Je vois parfaitement le patron posté derrière le premier portant. Il observe sa nouvelle recrue, l'homme venu du froid, qui se déchaîne comme un espagnol authentique. L'œil du patron s'arrondit et s'émoustille. Philippe V, lui, marmonne entre ses dents des réflexions saugrenues que la salle n'entend pas, mais que je perçois avec une terrifiante clarté. Et que fait le lituanien? C'est à moi qu'il s'adresse, c'est moi qu'il injurie, qu'il supplie, c'est vers moi que, sans sous-titres, il vocifère. Sur mes joues, des larmes comme des petits pois roulent enfin, mais avec allégresse. Ma bouche est tordue non pas par le chagrin, mais par un rire retenu et inextinguible. Je suis face au public. Le lituanien est face à moi. La situation est intolérable et le sang coule sur le corps du malheureux loup qui hurle à la mort de cette mauvaise actrice sans conscience professionnelle, de cette actrice qui débute et qui, à ce compte-là, n'ira pas loin dans la carrière. Un soir, il m'attrape au passage à ma sortie de scène. « Vous êtes au Conservatoire national d'art dramatique ?» me dit-il en appuyant avec véhémence sur les mots. « Ah oui ? C'est un scandale ! Vous n'avez pas le droit d'agir comme vous le faites. Vous déshonorez la profession. Savez-vous ce que c'est que de jouer un rôle ? Ce que cela représente ?» Je suis stupéfaite. C'est la première fois qu'il m'adresse la parole. Je réponds. « Pourquoi gesticulez-vous autant en scène ? Pourquoi m'injuriez-vous ? Pourquoi me regardez-vous, moi, tout le temps ? Je n'y peux rien. Ce sont vos cris et hurlements qui me font mourir de rire. Et en plus, je ne comprends pas un seul mot de ce que vous me dites. Pourquoi ? Pourquoi ? » Et il a l'air désespéré. « Parce que je suis amoureux de vous et que je veux vous épouser. » « J'ai un petit garçon, » ajoute-t-il plus calmement. « Je voudrais que vous soyez sa mère. »« Mais ça n'a pas de rapport avec mes fous rires en scène, » dis-je absolument ahuri. « Non, non, d'ailleurs je ne veux pas marier. J'ai fait du théâtre pour cela, parce que je ne veux pas me marier. » J'ai répondu n'importe quoi. Je vois descendre sur la poitrine nue du garçon des petites gouttes de sang. Il me semble subitement très vieux. Il est gris et blanc, comme un ancêtre de loup qui va quitter la horde. « Asseyez-vous, lui dis-je. Vous devez arrêter ça. Vous finirez par vous blesser, vraiment. Ne prenez pas cette histoire à ce point à votre compte. La pièce n'en vaut pas la peine. » J'ajoute en manière de consolation. « Et moi non plus. » Docilement, il s'est assis. Il m'a pris la main avec une sorte de reconnaissance et me parle doucement, comme à une enfant qu'il faut convaincre. En lituanien. Je répète. « Arrêtez ça. Je ne vous comprends pas. » « Vous êtes lituanien, je suis française, et vraiment, vraiment, je ne veux pas me marier. » Il rassemble ses forces, se lève et dit avec autorité dans un français appliqué et parfaitement pur. « Si vous voulez être une grande actrice, vous devez jouer avec beaucoup de sérieux. » Il est sévère, docte, professoral. Il vient de me délivrer un important message. Il est rassuré. L'homme amoureux a perdu la partie. Encore qu'amoureux, il ne soit sans doute plus très sûr de l'être. Mais le professionnel n'a pas perdu son temps. Il a semé une graine qui germera. Il l'a fait avec lucidité et sang-froid. Il a eu un important impact. Il le sait. Il sort du plateau d'un pas ferme. Un machiniste a observé du coin de l'œil cet interlude. Il s'approche de moi. « Il est givré, ce type-là » Oui, oui. C'est la première fois qu'il me parle et il vient de me dire qu'il veut se marier avec moi. Parce qu'il a un petit garçon. « Ce n'est pas la seule raison, » fit le machiniste un peu aigriard. Je me suis levée et je vais jusqu'à ma loge. Je pense. Non, non, ce n'est pas la seule raison. Un père aussi tragique ne doit pas porter à la bonne humeur tous les jours. Il souhaitait sûrement que j'apprenne à son fils à pleurer de rire. Après ce retour au passé, dans la voiture qui me rapproche de ma mère, j'entends les bouquets dont l'emballage se froisse. Il était apparemment si pauvre, si volontaire, si ambitieux. Il a réussi. Il est un professeur, un directeur d'acteurs très prisé en Lituanie. Certainement, on le considère. Cette fois encore, il va revenir au pays auréolé du prestige de Paris. Peut-être suis-je la première à qui il ait donné professionnellement un avertissement salutaire. Ce petit échec amoureux a été un tremplin puissant. Au fond, il a sans doute voulu me signifier aujourd'hui que c'est moi, sans le vouloir, qui lui ai ouvert le chemin de la réussite. Que c'est à moi qu'il a osé, pour s'en sortir dignement, donner une première grande leçon. Et en conclusion rassurante, j'ajoute. Dans ces conditions, il a eu tout à fait raison de me couvrir de fleurs. Ouvrir à quelqu'un la voie royale qui conduit à la réussite, c'est ce à quoi va aimablement s'employer Céline, la vedette de la nouvelle suivante. J'ai souvent constaté que les gens de sens rassis mettaient en doute l'imagination sous toutes ses formes, à part celle qui concernait la réussite. Celle-ci a en effet beaucoup d'importance aux yeux du monde, et personne ne va regarder de près les sentiers tortueux qui y conduisent. Il est facile pourtant d'observer que le candidat à la renommée est presque toujours flanqué d'une odieuse partenaire, l'ambition. Louise, dans « Méfiez-vous de vos rêves », si elle a sacrifié à cette passion-là, en est bien revenue. Il est vrai qu'elle a atteint le but. mais Marc Blanca en souffre comme d'une effrayante, torturante morsure. J'ai toujours dans mes archives la lettre de Marc Blanca. Je n'y ai rien changé. Si elle a inspiré mon histoire, celle-ci est très loin des rapports réels que j'ai entretenus avec son auteur qui, naturellement, porte à la ville un autre nom. Il a fait jouer de nombreuses pièces, dont certaines avec un grand succès. À l'époque, il avait 20 ans.